Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et on reviendra sur l'expulsion du squat de la Grande Ourse qui s'est tenu jeudi dernier 21 janvier au petit matin. Ce squat qui était établi dans un ancien magasin de meubles quai Robert Fèvre, on en a déjà discuté ici régulièrement. Léo s'est rendu sur place pour recueillir le témoignage de celles et ceux qui y vivaient ou de celles et ceux qui s'impliquaient et soutenaient ce mode de vie alternatif. Mais avant cela, c'est Clémence qui s'est entretenue avec Amélie Magnan à l'origine du projet Plus qu'une case, une boutique de vêtements qui reprend le concept des cafés suspendus. On peut donc acheter des t-shirts designés par des illustratrices et rajouter de l'argent afin de financer un autre vêtement à destination de personnes dans le besoin. Mais je vais la laisser expliquer ça mieux que moi et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Très bonne émission.
Peut-être connaissez-vous le principe des cafés suspendus ou non. Et bien c'est l'heure de la séance de rattrapage. Le concept est né en Italie. Chez le cafetier du coin, vous payez deux cafés et n'en consommez qu'un seul. Le second est suspendu. C'est-à-dire qu'il est disponible pour une personne qui n'a pas les moyens. Maintenant, prenez le concept des cafés suspendus et adaptez-le au monde du textile. C'est le concept de plus qu'une case. Amélie Magnan, la créatrice et directrice du projet, est avec nous dans cette Covidienne. Bienvenue Amélie.
Merci.
C'est possible donc avec ton projet de payer deux t-shirts pour n'en recevoir qu'un ou de faire un don pour financer un autre vêtement. Le second vêtement sera neuf et destiné à une personne dans le besoin. Un moyen pour ces personnes de pouvoir se vêtir avec du neuf. Aussi une manière de retrouver le pouvoir de choisir ses vêtements. Précision supplémentaire, les vêtements sont unisexes. Amélie, tu as discuté avec le public précaire pour peaufiner ta démarche avec plus qu'une case. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges ?
Ce qui est ressorti de ces échanges, c'est que j'ai discuté avec eux quand je faisais le samedi social, quand j'étais étudiante à Poitiers. Et en fait, on donnait des vêtements via la maraude. Parce que en fait, souvent, on donnait des vêtements, les tailles, on les choisissait pas, on choisissait pas le style. Et souvent, on donnait des t-shirts beaucoup trop grands, des pantalons. Enfin, pareil, s'ils n'avaient pas de ceinture, c'était un peu la misère vraiment pour se vêtir. Et à cette époque-là, moi, je faisais la maraude. Je trouvais que c'était chouette, mais c'est vrai que au fil du temps je me suis dit j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et après toutes ces discussions avec ces gens dans la rue, ça pourrait être cool de leur apporter la même offre neuve qu'il y a dans les magasins directement auprès d'eux et sans passer par les boutiques des associations caritatives. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi à tout ça.
Ça fait combien de temps à peu près que tu avais ce projet en tête à partir du moment où tu as commencé à être bénévole ?
Non, à cette époque-là, j'étais encore dans mes études de droit, donc je m'étais pas encore rendu compte ou j'avais pas encore accepté que c'était pas mon truc au final. Non, j'ai eu cette idée-là. J'étais juriste pour une association. J'étais à Angers déjà. Et j'en ai eu marre d'être juriste. Et puis c'est là que le projet a germé et que j'ai réfléchi à mixer le café suspendu avec les vêtements.
Donc du coup, avec ton parcours en droit, est-ce qu'il y a des compétences que tu as dû développer justement pour arriver à ce projet, des choses que tu as dû apprendre ?
Plein. Parce que être chef d'entreprise, c'est pas inné et on a besoin d'avoir plusieurs casquettes. C'est pas tous les jours très simple. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est d'être rentrée dans une coopérative d'entrepreneurs. Donc je gère pas du tout la compta et même la partie juridique, j'ai pas déposé les statuts. Je suis sous le numéro de Sirette de la coopérative, donc ça c'est chouette. Et sinon, je me forme en tant que graphiste. Là, normalement, je devrais faire une initiation à la sérigraphie aussi. Et puis, avec les partenaires que j'ai pour l'instant pour les ateliers d'impression avec qui je travaille, au téléphone, ils m'aiguillent, ils me conseillent. Donc, je me suis formée aussi comme ça, quoi.
D'ailleurs, les t-shirts, il y a des designs dessus qui sont proposés par des graphistes. Avec qui tu as déjà travaillé ?
Là, pour l'instant, j'ai travaillé avec trois graphistes angevins. Qui sont Lucille Béal, Nelly Garraud et Aurélien Chéré. Et Lucille et Aurélien, je les connaissais avant. Et Nelly, c'est via le quotidien, non, l'hebdomadaire Angers Ma Ville, que j'ai vu un article sur elle. Et puis, je suis allée à sa rencontre comme ça.
Donc, c'est des graphistes voilà, que tu approches parce que tu as aimé leur travail.
Tout à fait. Il n'y a pas forcément de... Je ne recherche pas forcément un engagement à travers leurs dessins. Je trouve que ça ferait beaucoup, déjà, vu que le fond du projet est sur un fond d'engagement, de solidarité. Là, c'est surtout une question d'affinité avec le travail des graphistes.
Pour financer le projet, tu as créé une cagnotte en ligne sur Ulule. Il y avait un objectif de 6 000 euros qui a été atteint l'été dernier. À quoi a servi cet argent ?
Cet argent, il a servi dans un premier temps à financer les commandes des gens via Ulule, à financer un petit stock aussi, financer de la communication, les goodies qui sont obligatoires via Ulule. Et puis voilà, ça va vite en soi. Parce que puis comme ils ont aussi financé des vêtements suspendus, il y avait toute cette partie-là qui était payée avec la cagnotte aussi, quoi.
Plus qu'une case, c'est un e-shop, mais il faut bien stocker les produits quelque part. Est-ce que tu as un local ? Où est-ce qu'il est situé ? Je ne demande pas l'adresse précise, bien sûr.
Pour l'instant, tout est chez moi, dans ma coloc. J'ai pas de local pour le moment. Vu que je me lance, j'essaye de ne pas avoir trop de coûts non plus. Parce que si ça ne fonctionne pas, j'aimerais pouvoir rebondir rapidement et pas avoir de dettes trop importantes.
T'essayes de faire au mieux concernant la qualité et la provenance des produits de la boutique. Les t-shirts sont en coton 100% biologique et le polyester est recyclé. Toutes les infos de façon générale sont disponibles sur ton e-shop au sujet de la composition des produits. Ces produits viennent de la marque Stanley Stella. Ils sont conçus en Asie dans des usines qui respectent les conditions de travail des ouvrières et des ouvriers. Pourquoi ne pas avoir opté pour une fabrication française ?
Tout simplement pour le coût. Parce qu'effectivement, on peut produire en France, fabriquer en France, sauf que le concept ne serait pas du tout possible en vrai, parce que si on fabrique en France, on peut vite se retrouver avec un t-shirt qui dépasse les 40 euros. Donc je pense qu'il y aura très peu de gens qui seront prêts à financer deux t-shirts pour 80 euros, ou alors ils le feront une fois dans l'année, quoi. Donc mon entreprise ne tiendrait pas la route.
Les t-shirts sont dispo en ligne, mais tout le monde n'a pas accès à Internet, notamment les personnes les plus précaires. Qui est-ce qui récupère les t-shirts flottants ou aussi les pulls, parce qu'il y a des pulls et des sweats disponibles sur le e-shop, et pour s'occuper de la distribution ?
Alors, quand les vêtements sont suspendus, moi, je les garde de côté chez moi, pour le moment. Et je travaille avec une association, le SAMU Social de Laval, KFD 53, avec qui j'ai eu une opportunité de rencontre en début d'année 2019. Et puis, on travaille ensemble. Donc, pour l'instant, c'est eux qui récupèrent les textiles suspendus. Et malheureusement, on n'a pas pu faire la maraude de distribution à cause de la situation. Et je croise les doigts pour pas qu'on nous reconfine, parce qu'elle devrait se faire en février.
Il y a des discussions qui sont en cours avec d'autres associations ?
Pas de discussions sérieuses. J'ai une éventuelle piste, mais j'avoue que je suis à la recherche de partenariats sur Angers.
Et comment est-ce que c'est accueilli pour le moment ?
Plutôt bien. Les gens sont souvent surpris du concept et agréablement surpris, donc c'est prometteur, ça fait plaisir, parce que j'avoue, on avance un peu dans ces petits souliers, on sait pas trop où ça va, et surtout, est-ce que les gens vont suivre de financer deux vêtements, parce que ça reste un coût, ça je l'entends, mais à quel point ils vont être altruistes, on sait pas, mais bon, en tout cas, c'est plutôt positif pour le moment.
Est-ce qu'on faut rappeler, on peut soit acheter directement un deuxième vêtement, soit oui. On peut aussi faire un don.
Oui.
C'est seulement à l'achat ou est-ce qu'on peut aussi faire un don de façon générale sans acheter d'article ?
On peut faire un don sans acheter d'article, il n'y a pas de souci. On peut faire un don en achetant un vêtement, on peut acheter un deuxième textile, on peut acheter qu'un seul textile pour soi, il n'y a pas d'obligation. Vraiment, c'est si on le souhaite.
Et merci Amélie d'être venue nous parler de ton projet.
Merci.
Vous pouvez retrouver la boutique à l'adresse plusqu'unecase.com et suivre le projet sur les réseaux sociaux, sur Instagram à @plusqu'une-case.
Merci beaucoup.
Et l'on se retrouve quant à nous dans quelques instants, ça sera après Andrew Rothschild et le titre Nature Therapy. We'll be right back. De retour dans la Covidienne sur le 103 FM. On va maintenant écouter le reportage réalisé par Léo jeudi dernier. C'était à l'occasion de l'expulsion du squat de la Grande Ourse et il est parti à la rencontre des personnes expulsées ainsi que des personnes qui se battaient pour faire vivre ce lieu.
7h45, ce jeudi 21 janvier. J'ouvre les yeux. En bon mordu de basket, j'allume mon téléphone et je regarde les scores des matchs de NBA qui se sont déroulés dans la nuit. Mais pas ce matin, car j'ai reçu un texto m'annonçant l'expulsion de la Grande Ourse, un squat bien connu installé dans un ancien magasin de meubles à Angers. Nous vous en avons beaucoup parlé ces derniers temps sur l'antenne de Radio Campus Angers. Deux interventions en studio, une immersion sonore dans la manifestation du 9 janvier et une série de reportages en cours. 7h48, j'enfile mes fringues, sors de mon appart et fonce sur mon vélo. À 6h, les forces de gendarmerie mobile ont procédé à l'expulsion du squat qui hébergeait 10 personnes cette nuit-là. Voici quelques témoignages recueillis sur place. Expulsé, membre du collectif et soutien de longue date. C'est parti.
Alors la Grande Ourse, comme beaucoup de squats en France, c'est avant tout ce que je qualifierais de palliatif. Palliatif face aux carences institutionnelles concernant notamment le droit au logement, mais également le fait de pouvoir s'alimenter, le manque de lien social, plus largement sur toutes les questions qui tissent notre quotidien et toutes les luttes qui sont portées à l'heure actuelle par des citoyens sur la question de l'écologie, sur la question du droit au logement, sur la question du droit à la dignité des personnes sans papier, mais pas que, également aussi des personnes françaises dont de plus en plus on observe avec la précarisation galopante que de plus en plus de gens se retrouvent dans des situations d'extrême précarité. Donc ça c'était le début du projet. Ensuite ça s'est ouvert à beaucoup d'autres choses, ça s'est ouvert à de l'art, ça s'est ouvert à de la musique, ça s'est ouvert à du théâtre de rue. Par la suite ça a également permis à des collectifs citoyens engagés sur différents sujet de venir préparer des banderoles, également préparer des actions symboliques ou des choses comme ça. Ça a été un lieu de soutien, il y a eu un accueil de jour pendant très très longtemps, en plus d'héberger les personnes, il y a eu un accueil de jour qui a duré extrêmement longtemps, qui est devenu par la suite du coup une friperie, un espace de gratuité alimentaire et vestimentaire. Après c'est un squat, comme tous les squats, il sert de palliatif, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne en fait qui était là pour le pur plaisir, mais pour probablement un sens de l'engagement, etc. On a conscience que la situation globale, elle s'assombrit, on a conscience, et ça précède le Covid, que la situation macroéconomique, etc., elle devient de plus en plus compliquée. Et dans ce contexte-là, on a aussi conscience que l'état social reflue, parce qu'il n'y a plus les budgets, etc., etc. Du coup, de plus en plus de gens prennent conscience qu'il faut s'organiser entre nous, par l'entraide, pour assurer des besoins vitaux qui semblent de moins en moins pris en charge par les institutions.
C'était un lieu de partage, c'était un lieu en réponse au manque de solidarité, c'était une alternative à ce qu'on a l'habitude de voir. C'était un lieu aussi qui nous est cher à beaucoup de gens.
Les forces de l'ordre avaient ouvert à la disqueuse la porte secondaire du squat en face du parking de la Rochefoucauld. Ensuite, elles sont entrées dans le bâtiment pour procéder à l'expulsion. Des occupants livrent leurs témoignages et leurs ressentis.
Ce matin, nous on dormait, ils sont rentrés comme ça, quand même, on dormait quoi.
Vers quelle heure?
Ils sont rentrés environ 5h du matin. À 5h, quand ils sont rentrés, quand même, j'étais avec un pote à moi, dans une cabane. On attend le bruit en bas et ça crie, du coup, on est. Les connards, ça crie en bas, du coup, ils sont rentrés en violent quand même. Nous tirer, allez coucher, on ne met pas sol, il fait froid. On ne met pas sol, il n'y a rien, on n'est même pas habillé, on ne met pas sol. On nous déshabille aussi dans notre frère pour nous fouiller, pour demander, c'est pas des hommes, des couteaux, machin. Moi, j'ai dit que non, j'ai pris des couteaux. Et du coup, même en bas, dans la cuisine, il y avait quand même le fumier classique, ça fait un peu les yeux, c'est possible de respirer, parce qu'ils sont les max, ils n'ont pas les max en ce moment, et c'était un peu compliqué, c'était violent quand même, psychologiquement c'était violent.
Ça t'apportait quoi la Grande Ourse? Ça faisait combien de temps que tu étais là?
La Grande Ourse, ça fait quand même un moment que je suis là avec eux, quand même, c'est... Quand même la grande ours quand même, que c'est un endroit où il nous aide à bergement, pour dormir, pour manger. C'est pas qu'on est violent, tu vois, nous on est là pour, on sait d'être nous parce qu'on n'a pas l'endroit à dormir. Et après, bah, du coup, c'était très compliqué, c'était pas facile.
J'ai entendu le bruit, je me suis dit qu'il y avait des gars qui discutaient en bas, parce que j'ai pas suivi police, du genre, j'ai même pas su que c'est le flic qui était là, genre, je descends les escaliers, et sur les escaliers, je vois, c'était à peu près 8 qui montaient, en fait, 8 CRS qui montaient, et genre, je me suis stoppé net, et il me dit, allez, venez, je dis, attendez, j'ai des affaires, je vais prendre mon sac. Non, vous descendez. Je dis, attendez mon sac. Ils sont venus sur moi, ils m'ont pris, ils m'ont traîné vers les escaliers, dans les escaliers. Et ils m'ont dit, couchez à plat ventre. Je dis, attendez, mais laissez-moi, je ne fais pas de force, je vais m'allonger. Il dit, à plat ventre, l'autre m'appuyait, genre, l'autre me cadre les jambes, le temps, puisque j'étais à genoux. Il dit, à plat ventre, il appuie, l'autre m'appuie avec les pieds, quoi. Il appuie mes fesses, l'autre m'appuie l'épaule. Il dit, face contre terre, à plat ventre, face contre terre et main derrière la nuque. Comme ça, et dès que je veux me lever, tourner ma tête pour dire, mais mes affaires, j'ai mes affaires. Il me dit, tu veux, face contre terre et main derrière la nuque, les affaires, tu les auras plus tard. Tu obéis, il dit que, bah, ok, ça va, j'arrive.
Tout au long de la matinée, une équipe de nettoyage a évacué de nombreux objets qui se trouvaient dans le squat. Des palettes, des fauteuils, quelques livres et parfois même de la nourriture de la fripisserie, des denrées offertes par des maraîchers locaux. La fripisserie, Sophie la connaît bien, elle y a passé beaucoup de temps. Et voir la grande ours expulser l'émeut profondément, elle réagit au téléphone.
Et moi au départ je suis venue, tout au début pas en tant que bénévole, je venais aussi pour prendre des dons alimentaires et tout. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'intérieur, Jay m'a proposé de devenir bénévole, donc j'ai accepté de très bon cœur. Et je ne regrette rien parce que c'est vrai que c'est l'autre côté du mur que je ne connaissais pas, de voir des gens qui ont des cœurs en or et qui m'ont très bien accueilli. Pour eux, je suis même leur mamie parce qu'il y en a qui m'appellent beaucoup mamie, hein, parce que je suis une mamie à la base. Et donc, je leur ai donné des idées, ça leur a donné envie d'ouvrir davantage la fripisserie, de faire plus d'appels de dons. Chaque jour, je venais pour faire du rangement, pour aider à l'accueil des dons, à l'accueil des personnes. Et c'est vrai que j'en ai gros sur le cœur parce que ça me fait mal, hein, de voir que comment est-ce qu'ils sont expulsés, parqués ni plus ni moins comme des vulgaires animaux derrière ces fichues barrières de merde là. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que pour moi ça. Je pensais pas que ça allait tomber là le coup près, quoi. Et comme j'ai dit à Jay, j'ai passé une très très mauvaise nuit, donc est-ce que j'avais un pressentiment ou quoi? Et c'est vrai que le relationnel avec eux va me manquer énormément. Parce que je m'étais fait des liens d'amitié, on a fait un peu les foufous ensemble, en ayant le respect quand même des distanciations avec le masque et puis tout. J'ai que de très bons souvenirs des mois que j'ai passés avec eux. Même si moi j'ai un appartement, je vis dans un appartement, j'ai pas les problèmes qu'eux, je suis pas dehors, malheureusement pour eux. Tout ça me déchire complètement de voir tous ces élus qui mettent des gens dehors en temps de pandémie en plus avec le coronavirus, tout ça, mais moi je trouve ça dingue, quoi. Dingue de voir. Toutes ces personnes qui viennent pour les foutre à la rue, d'accord, c'est un endroit qu'ils ont squatté, d'accord, c'était quelque part illégal, mais c'était un endroit qui ne servait à rien. Donc moi je comprends très bien pourquoi est-ce qu'ils ont fait, et j'espère pour eux très rapidement qu'ils vont trouver un autre endroit et qu'on puisse refaire des choses ensemble.
Moment plus délicat, quand les militantes et militants estiment qu'une partie de la procédure d'expulsion n'est pas légale, notamment concernant l'inventaire des affaires personnelles appartenant aux habitantes et habitants.
Il y a des gens qui vont tout faire, tout ce qu'ils ont.
Il y a des gens
qui vont tout faire, tout leur papier, toutes leurs affaires.
qu'il y a un inventaire à faire, parce que des murs, quoi, effectivement, mais le droit au logement et le droit à la propriété privée, c'est deux droits fondamentaux qui s'opposent, et c'est pas normal qu'on n'ait pas eu le droit pour les personnes du coup qui habitaient là de faire un inventaire de leurs affaires. Oui, il y a une partie des affaires qui est récupérée, mais ce que normalement la procédure dans la loi, c'est un inventaire avec les gens qui habitent et le huissier du propriétaire pour récupérer les affaires qui sont aux gens qui habitent parce que c'est leur bien personnel. Au même titre que le bâtiment, le propriétaire le récupère puisque c'est son bien personnel, mais on va de même pour les affaires personnelles qui sont pour les gens qui habitent dedans. Et c'est pas été bien rigoureux, visiblement. Parce que quand on nous parle de faire respecter l'état de droit, j'entends bien que la propriété privée est un droit fondamental dans le droit français, mais le droit au logement également. Et du coup, quand on doit faire respecter l'un, on fait respecter l'autre. Sinon, on ne parle pas de nous faire respecter l'état de droit dans ce cas. Effectivement, il y a eu des tensions parce que nous aussi, on a des droits, comme le propriétaire, et il n'y a pas de raison que ça aille dans un seul sens.
Dans la rue, à quelques pas de l'entrée du squat, des soutiens du collectif s'expriment autour de l'expulsion et plus largement autour du problème du logement à Angers.
Vous êtes très mécontent de voir l'expulsion ce matin ?
Très mécontent de voir l'expulsion, quoi.
Ça fait longtemps que vous êtes aux côtés de la Grande Ourse, que vous militez un petit peu
autour de vous ? Depuis le début, quoi, pratiquement.
Moi, je suis pas mal l'histoire des squats, des réquisitions, quoi, sur Angers depuis une dizaine d'années, là. On le savait bien, de toute façon, ça dure jamais des années. Voilà, c'est la justice qui a décidé que le droit de propriété primait, et voilà. Mais là, c'est incroyable, parce qu'on est dans des conditions d'urgence avec le Covid, avec l'hiver, tout.
Et des personnes à reloger en plus.
Oui, c'est ça, quoi. Il n'y a rien, quoi.
On se retrouve dans la rue, quoi. Hein, encore une fois de plus, quoi. Et puis après, on nous parle de maladie, quoi. Hein, la bestiole est toujours là, mais par contre, il y a toujours autant de gens dans la rue, quoi.
En un mot, votre ressenti sur ce qui est en train de se passer ?
Je trouve ça dégueulasse, quoi. Et en plus, on est en hiver, on nous parle de traite hivernale. Pour moi, elle n'est pas respectée, là. Voilà, quoi.
Partout, hein, c'est la précarité. On a vu ça hier, qui est au Crous avec les étudiants. Hein. Les besoins de base des gens, quoi. Le logement, l'alimentation, rien n'est respecté, quoi. On va vous parler des droits de l'homme et des machins. Il n'y a rien, quoi. On lâche rien, hein. Il faut se battre. Hein.
C'est non, c'est vous, ça. Hein. Moi, je suis né dans la rue, je mourrai dans la rue.
Tour du monde des sans-papiers, vous dites que vous avez fait 5 ans.
Oh, c'était, tu te souviens, le tour du monde des sans-papiers. C'était l'arrivée, parce qu'il y avait le Tour de France cycliste qui arrivait à Angers. Alors on avait pris le truc, et on avait mis le maillot jaune, c'était le haillon jaune. Ouais. Alors c'était en 2015-2014, ouais. Et pour montrer aux gens que les bâtiments vides existent, quoi, c'était vraiment ça. Alors il y avait l'évêché à l'époque, il y avait la gendarmerie place du dans le centre-ville, quoi, qui est vide. Il y avait le foyer Jean Villa, qui était désaffecté, qui était vide depuis des années. Enfin là aujourd'hui c'est repris, mais à mon plaisir.
Le foyer de jeunes travailleurs qui ne sert plus à rien, quoi.
Vide depuis des années.
Je l'ai vu se construire ce bâtiment.
Et comment vous avez recensé les logements qui étaient vides comme ça ?
On les connaît, il n'y a pas de soucis. La caserne des Trois Chênes des pompiers, là, qui avait hébergé, on avait hébergé quelques familles roms, là, qui avaient été. Et là, pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Tout est fermé, mais c'est trois bâtiments complets, nickel, quoi, et qui ne servent pas. Là, c'est un promoteur immobilier, on voit bien que c'est même pas un domicile, quoi. C'est une affaire, quoi. C'est un businessman, quoi.
Et vous êtes descendu dans la rue en 78, vous, votre première manif, c'est 78.
Ouais,
c'était à quelle occasion ?
C'était pour défendre le milieu ouvrier, quoi. C'était avec les syndicats, tout ça. Quoi.
Vous êtes resté dans les grandes causes de la gauche,
toujours
comme
dans
ça,
toujours de gauche et tout, quoi. Enfin, maintenant, si on peut appeler ça de gauche, quoi.
L'ultra-gauche, parce que t'as pas vu
l'ultra-gauche,
ils vont appeler l'ultra-gauche. Quand on est venu soutenir la Grande Ourse samedi dernier, hein. L'ultra-gauche.
L'ultra-gauche.
Qu'il a l'air de... Enfin, ça canne, c'est dangereux.
C'est mon arme, ça. Un monde qui s'enrichit, mais un monde qui s'appauvrit aussi.
Voilà, indécence, c'était le mot que j'avais dit. Ouais. Indécence, c'est vraiment ça. Quoi. Le pire, c'est qu'ils vont nous parler de... Après, ils vont nous parler de charité. Quoi.
L'expulsion s'est déroulée sans incident majeur. Mais plusieurs questions restent en suspens. L'appel de la décision de justice, qui devrait être rendue d'ici une à deux semaines, et surtout, le sort de celles et ceux qui vivaient et habitaient ici. La seule certitude, que j'ai entendue plusieurs fois ce matin, c'est que le combat continue.
Voilà, merci encore à Léo pour ce reportage hein, et d'avoir été sur place ce matin-là. On espère bien évidemment que des solutions d'hébergement pourront être proposées pour toutes les personnes qui se sont retrouvées à la rue et ce, non pas des solutions temporaires, hein, mais bien des solutions pérennes. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle Covidienne. Ce soir, retrouvez dans quelques instants à 19h le 3615 Chill Out suivi à 22h d'Electric Troubles. Très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. À demain. D'ici là, portez-vous bien.